Deuxième partie, novembre 1919. Chapitre 10. Henri d'Aulnay-Pradel, installé dans un vaste fauteuil de cuir, avait négligemment passé sa jambe droite par-dessus l'accoudoir et tendait à bout de bras, en le tournant lentement dans la lumière, un immense verre de fine hors d'âge. Il écoutait les propos des uns et des autres avec un détachement étudié afin de montrer qu'il était un type à la cool. Il adorait les expressions de ce genre, un peu familières. Si cela n'avait tenu qu'à lui, il serait même allé jusqu'à la vulgarité et aurait éprouvé une vraie délectation à proférer tranquillement des grossièretés devant des assemblées qui n'auraient pas eu les moyens de se sentir outrées. Pour cela, il lui manquait 5 millions de francs. Dans 5 millions, il pourrait se vautrer en toute impunité. Pradel venait au Jockey Club 3 fois par semaine. Non que le lieu lui plût particulièrement, il trouvait le niveau assez décevant comparé à ses attentes, mais il constituait un symbole de son ascension sociale qu'il ne se lassait pas d'admirer. Les glaces, les tentures, les tapis, les dorures, la dignité étudiée du personnel et l'ahurissant montant de la cotisation annuelle lui procuraient une satisfaction que décuplaient encore les innombrables occasions de rencontres qui s'y offraient. Il était entré 4 mois plus tôt, de justesse, les caciques du jockey se méfiaient de lui. Mais s'il avait fallu retoquer tous les nouveaux riches étant donné l'hécatombe des dernières années, le club serait devenu le hall des pas perdus. Et puis, Pradel disposait de quelques appuis difficiles à contourner, à commencer par son beau-père, à qui on ne pouvait rien refuser, et son amitié avec Ferdinand, le petit-fils du général Morieux, jeunesse déclassée et passablement décadente, mais qui condensait tout un ensemble de relations. Rejeter un maillon revenait à se priver de toute la chaîne. Impossible, la pénurie d'hommes vous contraint de ces choses parfois. Au moins, Aulnay-Pradel, lui, avait un nom, une mentalité de corsaire, mais des quartiers de noblesse. Donc, finalement, il avait été accepté. Au demeurant, M. de La Rochefoucauld, le président en exercice, considérait qu'il ne faisait pas si mal que cela dans le paysage, ce grand jeune homme qui traversait les salles au pas de charge, un perpétuel coup de vent, avec une arrogance qui justifiait l'adage selon lequel un vainqueur, c'est toujours quelque chose de laid. Assez vulgaire donc, mais c'était un héros. C'est comme les jolies femmes, les héros. Dans une bonne société, on a toujours besoin d'en avoir quelques-uns. Et à une époque où il était difficile de trouver des hommes de son âge à qui il ne manquait pas au moins une main ou une jambe, quand ce n'est pas les deux, celui-ci était assez décoratif. Jusqu'à présent, Aulnay-Pradel n'avait eu qu'à se louer de cette grande guerre. Sitôt libéré, il s'était lancé dans la récupération et la revente des stocks militaires, des centaines de véhicules français ou américains, de moteurs, de remorques, des milliers de tonnes de bois, de toiles, de bâches, d'outils, de ferrailles, de pièces détachées dont l'État n'avait plus l'usage et dont il avait besoin de se débarrasser. Pradel achetait des lots entiers qu'il revendait aux compagnies de chemin de fer, aux sociétés de transport, aux entreprises agricoles. Le bénéfice était d'autant plus confortable que le gardiennage de ces zones de stockage était extrêmement poreux aux arrosages, pourboires et autres bakchiches, et que sur place vous enleviez facilement 3 camions pour un et 5 tonnes pour 2. La protection du général Morieux et son propre statut de héros national avaient ouvert à Aulnay-Pradel bien des portes et son rôle à l'Union nationale des combattants, qui avait montré son utilité en aidant le gouvernement à briser les dernières grèves ouvrières, lui avait ménagé de nombreux appuis supplémentaires. Grâce à quoi il avait déjà remporté d'importants marchés de liquidation de stock, achetant des lots entiers pour quelques dizaines de milliers de francs qu'il empruntait, et qui, après revente, devenaient des centaines de milliers de francs de bénéfices. Salut vieux. Léon Jardin-Beaulieu. Un homme de valeur, mais qui était né petit, 10 centimètres de moins que tout le monde. C'était à la fois peu et beaucoup. Pour lui, c'était terrible, il courait après la reconnaissance. « Salut, Henri, » répondit-il en roulant légèrement des épaules. Il pensait que ça le grandissait. Pour Jardin Beaulieu, avoir le droit d'appeler Aulnay Pradel par son prénom était une volupté pour laquelle il aurait vendu père et mère, ce que d'ailleurs il avait fait. « Il affecte le ton des autres pour se croire comme les autres, » pensa Henri, en lui tendant une main molle, presque négligente, et il demanda d'une voix basse, tendue. « Alors ?»«
Toujours rien, » répondit Jardin Beaulieu. « Rien de filtre. »
Pradel leva un sourcil agacé. Il excellait dans les messages sans parole à destination du petit personnel.
« Je sais, » s'excusa Jardin Beaulieu, « je sais. »
Pradel était terriblement impatient. Quelques mois plus tôt, l'État s'était résolu à confier à des entreprises privées le soin d'exhumer les dépouilles des soldats enterrés au front. Le projet était de les regrouper en de vastes nécropoles militaires, l'arrêté ministériel préconisant la constitution du plus petit nombre possible des plus grands cimetières possibles. C'est qu'il y en avait un peu partout de ces cadavres de soldats, dans des cimetières improvisés à quelques kilomètres, voire à quelques centaines de mètres de la ligne de front, sur des terres qu'il fallait maintenant rendre à l'agriculture. Il y avait déjà des années, quasiment depuis le début de la guerre, que les familles réclamaient de pouvoir se recueillir sur la tombe de leurs enfants. Ce regroupement des sépultures n'excluait pas de restituer un jour à celles qui le souhaiteraient le corps de leurs soldats, mais le gouvernement espérait qu'une fois constituées, ces immenses nécropoles où les héros reposeraient auprès de leurs camarades morts au combat calmeraient les ardeurs familiales et éviteraient de gréver à nouveau les finances de l'État par des transports individuels, sans compter les questions sanitaires, un vrai casse-tête qui coûterait les yeux de la tête alors que les caisses resteraient vides tant que l'Allemagne n'aurait pas payé ses dettes. Cette vaste entreprise morale et patriotique de regroupement des cadavres entraînait toute une chaîne d'opérations lucratives à souhait. Des centaines de milliers de cercueils à fabriquer, puisque la plupart des soldats avaient été enterrés à même le sol, parfois simplement roulés dans leur vareuse. Des centaines de milliers d'exhumations à coups de pelle. Le texte prévoyait explicitement qu'il fallait user de la plus grande précaution. Autant de transports en camion des dépouilles mises en bière jusqu'aux gares de départ et autant de réinhumations dans les nécropoles de destination. Si Pradel remportait une part de ce marché, pour quelques centimes par corps, ces Chinois allaient déterrer des milliers de cadavres, ces véhicules transportaient des milliers de dépouilles en putréfaction, ces Sénégalais inhumaient le tout dans des tombes bien alignées, avec une belle croix vendue au prix fort. De quoi reconstruire de fond en comble, en moins de 3 ans, la propriété familiale de la Salvière, qui pourtant était un sacré gouffre. À 80 francs le cadavre, et avec un prix de revient réel aux alentours de 25, Pradel espérait un bénéfice net de 2,5 millions. Et si le ministère passait en plus quelques commandes de gré à gré, en retirant les pots de vin, on frôlerait les 5 millions, le marché du siècle. Pour le commerce, la guerre présente beaucoup d'avantages, même après. Bien informé par Jardin Beaulieu, dont le père était député, Pradel avait su anticiper. Dès la démobilisation, il avait créé la société Pradel et compagnie. Jardin Beaulieu et le petit-fils Morieux avaient apporté chacun 50 000 francs et leurs précieuses relations. Pradel, 400 000 à lui tout seul, pour être le patron et pour prendre 80% des bénéfices. La commission d'adjudication des marchés publics se réunissait ce jour-là. Elle était en conclave depuis 14 heures. Grâce à ses interventions et à 150 000 francs de dessous de table, Pradel l'avait bétonné. 3 membres, dont 2 à sa botte, devaient trancher sur les différentes propositions et décider, en toute impartialité, que la société Pradel et compagnie présentait le meilleur devis, que son spécimen de cercueil déposé au magasin du service des sépultures était le plus conforme à la fois
à la dignité des Français morts pour la patrie et aux finances de l'État. Moyennant quoi, Pradel devait se voir attribuer plusieurs lots, une dizaine si tout allait bien, peut-être davantage. Et au ministère, un large sourire s'épanouit sur le visage étroit de Jardin Beaulieu. Il avait la réponse « L'affaire est dans le sac ». « Oui, ça je sais !» cracha Pradel excédé. « La question c'est quand ?» Son souci n'était pas seulement lié aux délibérations de la commission d'adjudication. Le service de l'état civil, des successions et des sépultures militaires dépendant du ministère des Pensions était autorisé, en cas d'urgence et s'il l'estimait nécessaire, à attribuer des marchés de gré à gré sans passer par un appel à la concurrence. Une vraie situation de monopole s'ouvrirait pour Pradel et compagnie qui pourraient facturer à peu près ce qu'ils voudraient, jusqu'à 130 francs par cadavre. Pradel affectait le détachement que les esprits supérieurs adoptent dans les circonstances les plus tendues, mais il était en fait d'une nervosité folle. À sa question, Jardin Beaulieu n'avait hélas pas encore de réponse. Son sourire s'effondra. « On sait pas. » Il était livide. Pradel détourna le regard. C'était le congédié. Jardin Beaulieu battit en retraite, fit mine de reconnaître un membre du jockey et se précipita piteusement à l'autre bout du vaste salon. Pradel le vit s'éloigner. Il portait des talonnettes. S'il n'avait pas été miné par le complexe de sa petite taille, ce qui lui faisait perdre tout sang-froid, il aurait été intelligent, dommage. Ce n'était pas pour cette qualité que Pradel l'avait recruté dans son projet. Jardin Beaulieu avait deux mérites inestimables. Un père député et une fiancée sans le sou, sinon qui aurait voulu d'un pareil nabot, mais ravissante, une fille très brune avec une jolie bouche que Jardin Beaulieu devait épouser dans quelques mois. À la première présentation, Pradel avait pressenti que cette fille souffrait en silence de cette alliance avantageuse qui discréditait sa beauté. Le genre de femme qui aurait besoin de revanche, et à la voir se déplacer dans le salon des Jardins Beaulieu, Pradel avait un œil infaillible pour cela, comme pour les chevaux, disait-il. Il aurait parié qu'en s'y prenant bien, elle n'attendrait même pas la cérémonie.